Bonjour à tous, chers amis auditeurs, c'est Sophie pour Page en Partage. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Christophe Chabiran qui est avec nous pour son recueil de nouvelles qui s'appelle Origine et dont nous allons parler tout de suite. Il y aura un jingle, j'imagine. C'est bon là? Je peux continuer?
Tu peux continuer.
Alors, bonjour Christophe, est-ce que je peux
Oui,
te
bien sûr. Bien
tutoyer?
sûr, bonjour Sophie.
Alors, j'ai lu que tu étais originaire de Vendée, que tu es à La Réunion depuis 1986. Dans quelles circonstances tu es venu à La Réunion?
Alors, j'ai entendu parler de La Réunion pour la première fois en 76, quand je faisais mes études à Nantes. Il y avait un bar, un restaurant créole.
Ah!
Et j'ai découvert cette magnifique carte en relief qui était accrochée dans le restaurant. Le restaurateur est devenu un ami, on a bu quelques punches. Et 10 ans après, j'ai eu envie de venir à La Réunion. Hein, et comme
D'accord,
j'étais instituteur, je suis venu comme
et donc tu es resté
enseignant.
parce que tu t'y es plus,
Ah oui,
très
tout à
bien.
fait, oui.
Donc, quand est-ce que tu as commencé à écrire? Est-ce que ça a toujours été une passion ou c'est venu au cours de ta vie active?
Ah oui, ça a toujours été une passion. Hein. D'abord la lecture, hein.
Bien
J'ai fait
sûr,
des
oui.
études littéraires. Mais... Et ensuite, oui, j'écrivais dès le collège, hein. En particulier des poèmes, parfois assassins, quand j'avais un professeur que je n'aimais pas trop. Je me vengeais un petit peu dans le journal du collège. Mais j'ai toujours écrit ensuite, oui.
Alors, il y a beaucoup de gens qui écrivent, mais à partir du moment où on commence à écrire et à être publié, quelle est la démarche pour arriver à ce premier écrit qui vraiment sort, qui est visible vers l'extérieur? Comment est-ce que ça s'est passé pour toi?
La démarche, ça a été d'envoyer des. D'abord de faire lire à des proches qui m'ont dit que oui, ils pensaient que ça valait le coup, que je pouvais faire une démarche dans le sens d'une édition. Et tout simplement, j'ai envoyé des manuscrits. Hein, et un jour, Orphie m'a répondu, donc
Bingo, c'était
voilà,
parti, et puis
voilà,
après ça a
voilà.
continué. Bah, très bien. J'ai vu aussi que tu étais musicien. Est-ce qu'il y a un lien entre tes talents de musicien et ceux
Ah
d'écrivain?
oui, il y a un lien. D'abord, je suis plus nouvelliste que
Oui, on
romancier.
va revenir.
Donc le lien pour moi, c'est dans une nouvelle, il faut être précis, concis, il faut aussi avoir une chute. Et c'est un petit peu les mêmes règles que dans une improvisation en jazz.
Ouais, il y a un
C'est-à-dire que
thème, on le
y a un
prend,
thème, on
mais
joue un thème.
sur un certain nombre de mesures, on doit tout de suite aller
Voilà,
à
et
l'essentiel.
on improvise et on ne perd pas de temps.
Alors, Origine, c'est donc un recueil de nouvelles ou de courtes histoires. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou
Oui,
pas? Oui.
pour moi, il y a
Oui.
une différence, c'est qu'habituellement, dans les précédents recueils de nouvelles, les nouvelles sont très courtes. Elles sont
Donc,
contemporaines.
c'est une question de nombre de mots, de nombre de
Ou,
caractères ou...
oui, c'est là, pour moi, c'est. Bon, ça rentre, les trois histoires qu'il y a dans Origine rentrent dans le cadre des nouvelles, hein, puisque c'est quand même. C'est pas des romans, mais c'est entre le court roman et la longue nouvelle, en fait.
D'accord. Donc, c'est un roman. Enfin, pour moi, je comprends que c'est un court roman parce que il y a quand même une histoire qui se déroule dans le temps.
Voilà,
Une
voilà.
nouvelle, c'est souvent parfois juste un peu anecdotique, une anecdote qui est développée, puis il y a une sorte d'unité de temps qui est assez courte
Voilà,
dans une nouvelle courte. Mais
voilà,
donc,
c'est.
il s'agit de courtes histoires, donc apparemment c'est un format qui te convient.
Oui,
Puisque
ah
tu en as
oui,
fait, donc tu as
c'est
expliqué
mon format,
pourquoi.
oui.
Et je pense que pour les gens qui n'aiment pas lire tout de suite des gros romans, ça peut être aussi un bon entraînement à la lecture de commencer par des nouvelles parce que voilà, on est pris dans une histoire et puis
Mais là,
on
oui.
peut passer de l'une à l'autre à différents temps, voilà, sans
Voilà,
oublier ce qui est écrit.
l'avantage de la lecture de nouvelles, c'est qu'on peut en lire une, on laisse
Ouais.
et on reprend. Ça peut être dans le métro, enfin il n'y a pas de métro à La Réunion, mais ça peut être voilà,
Dans le bus.
des.
Alors, ce recueil de nouvelles s'appelle Origine, et en fait, les trois nouvelles qui s'appellent Vidar, Origine et Géhenne sont sur ce thème. Donc, c'est ça qui est intéressant de mettre les trois dans le même recueil. Il s'agit donc dans les trois histoires d'une quête d'identité, de la place en fait des géniteurs dans la construction et l'harmonie d'une personne, donc, que l'on retrouve, hein, je ne sais pas si tu es d'accord, dans
Oui,
chacune de tes
tout à
nouvelles.
fait, oui.
Pourquoi ce thème? Est-ce que c'est un thème qui te tient à cœur? Est-ce que toi-même, tu as ta propre généalogie qui a été faite. Comment est-ce que c'est venu à ce moment-là de ta vie de parler de ce thème?
Il n'y avait pas de déclic précis. Hein. J'ai écrit ces trois histoires et puis je me suis dit qu'elles pouvaient se rassembler en un seul recueil sur ce thème des origines. Mais c'est pas moi, par exemple, mes origines, je suis pas concerné par aucune des personnellement. C'est pas autobiographique, quoi. Je suis pas concerné par ces nouvelles.
Mais alors, d'où on tire un peu l'inspiration? C'est des gens autour de toi que tu as connus ou des...
Ça peut être ça peut être des choses entendues, des choses vues. C'est très variable. Hein. Ça peut être aussi personnel, hein, mais jamais quand même autobiographique.
D'accord. Alors, on voit aussi un certain nombre de liens avec le roman policier. J'ai vu que tu avais publié aussi des romans policiers parce que dans chacune des nouvelles, on a quand même le sordide et le crime qui peuvent s'inviter un petit peu à un roman ou à un autre.
J'aurais pu en faire des romans policiers, mais c'était pas mon envie pour ces trois histoires.
Avec parfois, même moi, j'ai trouvé des scènes de sexe un peu chaudes, hein, avec des descriptions de viol ou des choses comme ça. Donc là, on retrouve aussi ton aspect roman policier qui sait se mettre en place pour maintenir ou donner aussi un peu de suspense ou
de conserver l'intérêt du lecteur.
Donc on va parler un peu de chacune de ces nouvelles si tu es d'accord. La première, c'est Vidar. On a un lien avec La Réunion puisque c'est une famille qui est installée à La Réunion. C'est un homme qui, à la mort de sa grand-mère, revient un peu sur le passé de cette grand-mère et sur ses origines à lui, si tu veux en dire un peu plus.
Il y a une sorte de flashback. Hein. On trouve cette dame âgée à La Réunion qui sent qu'elle va bientôt mourir et qui a une terrible histoire, un terrible passé qu'elle n'a pas pu confier à son fils qui est mort dans un accident de moto en métropole. Et donc elle va confier son histoire à son petit-fils.
Et donc c'est une histoire assez dure, hein, qui rejoint l'histoire, la grande histoire en général. Hein.
Oui.
Donc on va peut-être pas trop en dire, parce que après il y a des désirs de vengeance, etc.
Oui.
Et puis cet homme qui finalement se construit aussi en sachant mieux qui il est et d'où il vient.
Le sens un peu, c'est aussi comme dans la suivante dont on va parler, c'est un arbre sans racines, ça pousse pas, quoi. Donc,
Tout à fait. Alors dans la deuxième, justement, Origine, c'est un peu l'inverse. C'est un enfant de La Réunion qui est adopté en métropole et qui, à un moment de sa vie,
à la naissance de son fils,
au moment de la transmission de la vie soi-même, qu'on peut se poser cette question. Moi, je transmets la vie, mais finalement, je viens d'où, qui je suis, qu'est-ce que je fais là? Quel est mon passé, en quelque sorte?
C'est cette grande question qui va le... Comme il a été adopté par des métropolitains et en France, en métropole, il va se poser la question de rechercher d'où il vient.
Alors, je te propose justement de lire un de ces passages, donc de cette nouvelle, où il va essayer de retrouver, où cette quête se met en place. Donc notre héros, il s'appelle Adrien. Donc, Adrien refusait de l'admettre, mais il sentait bien au fond de lui que ces soudaines colères de l'enfance remontaient à la surface sans qu'il ne sache l'expliquer. Aurore dut se rendre à l'évidence. Le comportement d'Adrien avait changé depuis la naissance d'Alex. Elle en ignorait la cause. Au bout de longues discussions et aidé par l'intelligence et la clairvoyance de sa femme, le jeune père finit par se rendre compte que la venue d'Alex le renvoyait à sa propre naissance. Il était devenu un père aimant et attentionné, mais souffrait lui-même de l'absence de ses parents, de ses vrais parents, de ses véritables origines. Bien sûr, il allait souvent voir ses parents adoptifs, qui adoraient leur petit-fils, mais cela ne suffisait pas à combler ce vide que créait en lui le défaut de parents biologiques. Pourquoi l'avait-on abandonné? Comment était-il possible d'abandonner un bébé? À l'incompréhension succédait la révolte, à la révolte, la colère. Donc c'est...
Oui, on a bien décrit l'état psychologique dans lequel il se trouve.
Tout à fait. Donc ils vont aller à La Réunion et puis ils vont rechercher les origines d'Adrien. Et en même temps, on se Alors, on a de très belles descriptions aussi de certaines balades, de certains endroits de La Réunion. Oui. Hein, ça, ça parle de ça aussi. Et puis, bah, la famille, elle n'est pas si accueillante que ça, quoi, finalement.
Oui,
hein,
oui, il tombe un peu comme...
Il tombe un peu dénu et oui. Bon, il y a encore tout un passage qui est intéressant. Mais on voit aussi, on dit que La Réunion, c'est une terre d'accueil où tout le monde s'entend bien. Mais il y a encore, ou en tout cas, il y a eu à une époque, hein, le racisme des Blancs contre les Noirs.
Oui, oh, il est, bon, dans ce cas précis, il est dans ce sens-là, mais il peut être aussi...
il peut être dans l'autre sens
aussi. Hein.
Alors c'est rigolo parce qu'on avait la semaine dernière un auteur qui nous parlait aussi de ses origines et de son ancêtre esclave et on se rend compte que beaucoup de Blancs de La Réunion finalement ont des ancêtres noirs.
Oui, oui, mais bien sûr.
À une époque, il y a toujours...
Mais il ne fallait pas le dire, il fallait le cacher.
Il fallait le cacher.
Oui, mais bon, c'est vrai que aussi, comment dire, sur la fin de l'histoire, on voit que ce vieux monde est terminé, il est fini, qu'il n'a plus de...
Tout à fait.
Il n'a plus d'avenir.
On passe à autre chose. Alors, on va faire une pause musicale en passant maintenant une chanson de ton groupe qui s'appelle Beautiful Love, c'est
oui,
ça? Tu veux nous en dire quelques mots?
Oui, c'est un morceau de Jazz à l'onf, hein, on était en quintette à l'époque. Et voilà, c'est un morceau qui s'appelle Beautiful Love.
Très bien, on l'écoute. Thank you. Alors, on a encore quelques mots à dire de la troisième nouvelle qui s'appelle GN.
Oui.
Et là, justement, j'ai trouvé que c'était une des plus dures à lire, hein, puisque on part d'un point de vue d'un enfant et d'un enfant qui est maltraité par son père, qui est vraiment maltraité et qui est, on va dire, qui subit toutes sortes de coups. L'introduction pour moi est très forte puisque on rentre dans le sujet avec cet enfant qui nous dit « j'ai 6 ans et je voulais mourir ».
Donc,
on est d'un autre côté de ses origines et de ses racines. C'est comment se construire quand on a connu une enfance comme ça.
Ben oui, entre la première histoire où on était à la recherche de sa famille et la troisième, donc GN, où la famille est insupportable, on est toujours dans les cas de figure qui sont extrêmement angoissants.
Pourrait dire que le premier personnage, il a eu plus de chance, il n'a pas connu sa famille, mais il a été élevé par une grand-mère aimante.
Oui.
Et là, le personnage, il connaît ses parents, mais peut-être qu'il aurait mieux fallu pour lui les connaisse pas. Et malgré tout, au moment où son père va finir par disparaître de sa vie, il devrait être soulagé, il reste quand même attaché, il a toujours des cauchemars, et ce lien reste quand même un lien fort pour lui et difficile à surmonter.
Ben oui, un peu, forcément toujours un peu le syndrome de Stockholm, hein, où le tortionnaire, on l'aime quand même quand il est le père. Et puis il y a ce rapport... très ambigu avec la religion, hein, puisqu'il se réfugie dans la prière et il fait des demandes pas très catholiques, justement.
Ah oui, il demande à ce que son père soit tué, et quand finalement ses vœux sont exaucés en quelque sorte...
Il a un sentiment de culpabilité terrible, il a l'impression d'être à l'origine de la mort de son père.
Alors que c'était qu'un enfant,
bien
et
sûr.
En plus qu'une victime.
Bien sûr, mais la manière de penser un peu magique des enfants fait qu'on croit que leur rêve et réalité se confondent, ou cauchemar et réalité se confondent.
Très bien. J'ai envie de vous lire, amis lecteurs, le début de cette nouvelle qui est fort, comme je vous l'ai dit. J'ai 6 ans. J'ai réussi à grimper sur le rebord intérieur de la fenêtre, qui est assez large pour que je puisse m'y tenir à genoux. J'ai le nez collé à la vitre épaisse. Le verre est froid, et avec mes deux mains, je pousse de toutes mes forces sur les montants de bois à la peinture écaillée. Elle est solide, cette fenêtre. Je pousse, je pousse, je pousse, rien à faire, elle tient bon. Elle est comme tout le reste de l'immeuble, laide mais solide. Arc-bouté, je tente de trouver en moi quelques forces supplémentaires. Mais rien ne se passe, pas le moindre frémissement, pas la moindre craquement. Elle ne cède pas. Je suis maintenant en nage et essoufflée. Je me laisse glisser du rebord et me répands sur le lino tiède. Mon nez affleure le sol et l'odeur de caoutchouc emplit mes narines. Lentement, je me glisse dans mon lit et pleure sans bruit. À 6 ans, je voulais déjà mourir. Alors voilà comment ça commence.
Oui, ça commence assez durement. C'est bon, c'est vrai que ces 3 histoires démarrent d'une manière assez sombre, mais elles ont toutes quand même une résolution.
Alors justement, parlons de la résolution. Apparemment, le personnage réussit à se construire grâce à la musique. Est-ce que vous pensez que la musique peut réparer comme ça les gens ?
Ah, on dit que la musique adoucit les mœurs, mais je crois que oui, pour moi, en tous les cas, dans mon monde à moi, la musique est fondamentale. Sans la musique, je ne serais pas complètement, moi-même, je ne serais pas parfaitement heureux.
Alors, vous jouez du trombone, c'est ça ?
Oui, je joue du trombone, oui.
D'accord, et vous avez un concert prévu tout bientôt ?
Oui, le quartet qu'on entendra tout à l'heure, qui s'appelle Soft Quartet, sera au Métis Café le 10 juillet à partir de 19h.
D'accord,
je peux donner les noms des musiciens. Il y aura David Johanné au sax baryton, Jean-Michel Audigé à la contrebasse et Julien Weiss à la batterie et moi-même au trombone.
Est-ce que les musiciens, c'est les meilleurs amis qu'on a ? Vous les connaissez depuis longtemps ?
Oui, tout à fait, oui. Et puis, dans la musique, c'est un petit peu comme dans beaucoup de choses. Je ne pourrais pas jouer avec des gens que je n'aime pas.
Oui,
donc,
tout à fait.
Pour qu'il y ait cette connivence, pour qu'il y ait cette symbiose musicale, il faut être ami, oui.
Oui, je comprends bien ce que vous dites, cette symbiose. En même temps, je pense que la musique, on peut se réparer parce qu'on peut dire les choses sans mots aussi. Hein. Les émotions peuvent sortir lors d'un solo, quand la tension monte tous ensemble.
Oui, oui.
On peut exorciser aussi sans doute un certain nombre de choses.
On dit toujours que les mathématiques sont un langage universel, mais je pense que la musique
l'est d'autant plus, surtout quand on joue avec les personnes qu'on connaît et qu'on aime. Alors, vous avez aussi amené un autre ouvrage qui vient de paraître.
Oui.
Alors, en fait, c'est un ouvrage pour enfants qui s'appelle Léa en avant la musique,
oui,
puisque c'est
toujours
une bonne transition. Ouais. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot de cet ouvrage ?
Oui, j'ai une amie donc, qui s'appelle CPM, son nom de plume, qui est Christine Payette, qui est l'épouse d'un ami trompettiste. Et je la voyais qui dessinait, j'adorais ce qu'elle faisait au point de vue dessin. Donc, ce qui n'était pas du tout mon projet au départ, j'écris pas pour la jeunesse normalement, tous mes écrits sont plutôt réservés aux adultes. Et on a décidé de faire cet album jeunesse, dont il y a 2 thèmes principaux, c'est la musique et aussi l'homoparentalité.
D'accord.
Puisque c'était une petite fille qui a 2 mamans et... bien que ça soit pas absolument pas militant, c'est juste le projet, c'est juste parmi les nombreuses intolérances qu'il y a, que ce soit la couleur de la peau, que ce soit la religion, etc. Il y a aussi ce phénomène d'enfants dont on parle beaucoup actuellement, qui ont 2 mamans ou 2 papas ou un papa et une maman.
Très bien. C'est un très joli livre que je vous invite à rechercher. Où est-ce qu'on peut le trouver ?
Oh, dans toutes les librairies. Il est édité par Orphée aussi.
D'accord. Et qui dit, comme un petit refrain, « Qui a peur de l'audition ? C'est pas nous. » Est-ce que ça fait peur de jouer en public ? Vous vous souvenez d'avoir eu peur, vous, ou bien ?
Oh, le tract fait partie du bagage du musicien. Après, d'abord, on s'habitue, et puis c'est plutôt un moteur positif.
D'accord.
Pour moi, c'est pas paralysant.
Et on n'a pas ce tract quand on publie, on ne sait pas le retour tout de suite, on n'a pas le contact immédiat avec son
public. Non, c'est pas la même chose. Il y a un certain délai, c'est pas aussi immédiat qu'un concert.
Alors, est-ce que vous avez des retours sur vos romans ? Vous avez un blog ou quelque chose où les gens vous disent un peu ce qu'ils en pensent ?
J'ai un site par lequel on peut me joindre, faire des commentaires. J'ai des retours journalistiques,
bien sûr.
Et puis oui, des lecteurs souvent m'envoient un petit courrier, un petit message de soutien. Pour l'instant, je me souviens pas avoir eu de retour négatif.
C'est tant mieux, il n'y a pas de raison. Non, mais c'est sûr que c'est l'intérêt des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on peut être directement en contact avec un auteur et lui faire part de vos questions ou de ses encouragements. En tout cas, moi, je vous invite à lire Origine, donc de Christophe Chabiran, qui est un recueil de nouvelles qui est très agréable à lire et qui est très intéressant. Donc, je vous remercie. Merci, Christophe,
c'est moi qui vous remercie.
D'avoir été avec nous. Est-ce que tu as encore un message personnel à passer ou autre chose que tu veux rajouter?
Non, il n'y a rien de...
Est-ce que tu as d'autres ouvrages en préparation?
Ah oui. Là, je suis sur... j'ai un roman policier qui est terminé. J'ai un autre recueil de nouvelles aussi qui est prêt. Et je suis sur un autre roman policier et sur un autre album jeunesse. Donc, en fait...
Donc, voilà, tu es bien occupé. Tu es occupé à plein temps maintenant tes talents à la fois d'écrivain et de musicien. Voilà. Eh bien, on te remercie d'être venu à Radio Sud Plus pour parler de tout ça.
Merci à vous de m'avoir invité.
Et puis, on va passer à un dernier morceau de Christophe Chabiran, à nouveau, qui s'appelle... Tu peux nous le dire?
Oui, alors c'est Line for Lions. C'est donc avec les musiciens que j'ai cités tout à l'heure. Ouais. Et c'est pas un morceau, c'est pas une composition, hein. C'est un standard de jazz de Jerry Mulligan.
Très bien, merci, on écoute ce morceau.
Merci, au revoir. Thank you.
Alors Sophie, on va parler aussi des dédicaces, hein, des dédicaces à venir, et on commence par le 10 juillet. Alors là, il y a un grand événement qui a déjà été fêté à Saint-Denis d'ailleurs, avec même des chanteurs et des conteurs. C'est Isabelle Quichenin qui sort son nouveau roman, Karma. Alors c'est le 10 juillet, alors d'abord de 14h à 17h à Saint-Denis, et donc à Autrement, et ensuite au portail Saint-Leu, ensuite plutôt avant, de 10h à midi, au portail de Saint-Leu. Donc Isabelle Quichenin à ne pas manquer le samedi 10 juillet pour les dédicaces. Et puis il y a un événement également, Yourte en scène, embarquement immédiat, comme tous les ans au mois de juillet. Ça se passe du 16 au 25 juillet. Ça s'appelle Partir en livre et également Carnet de croquis. Alors il y a des rencontres d'artistes, il y a plein de choses tout autour du voyage et des carnets de voyage, des bandes dessinées. Donc c'est un événement à voir à Yourte en scène, au lieu dit La Veuve, sur la route, l'ancienne route nationale de Saint-Leu. Et puis également sur le parc du 20 décembre à Saint-Leu. Donc il y aura des stands, il y aura plein de choses. J'y ai été l'année dernière et c'est vraiment très très bien. Hein, il y a quasiment une dizaine de jours où il y a plein de choses à voir et à faire. Des ateliers également, bien sûr.
Radio Sud Plus Réunion, la sensation. Radio Sud Plus Réunion.
Alors c'est toujours Sophie pour Page en partage, et après avoir parlé du roman de Christophe Chabiran, Origine, enfin son recueil de nouvelles, nous allons aujourd'hui, je vais vous présenter deux autres livres. Donc on va parler de La Badine des Fous de Cécile Huet et d'un certain nombre de nouvelles, enfin j'ai choisi quelques nouvelles dans le numéro 7 de Cagnard dont on va aussi parler. Alors La Badine des Fous. Donc c'est un livre qui se passe à La Réunion au début du XVIIIe siècle. Donc il a été écrit par une réunionnaise, Cécile Huet, qui a écrit aussi d'autres ouvrages, qui a souvent été récompensée pour ses livres. Et pour moi, c'est un récit en trois temps qui parle bien sûr du temps de l'esclavage, mais on va développer trois moments. D'abord, D'abord, depuis la capture des esclaves au Mozambique et leur traversée sur un négrier. On parlera ensuite de la vie des esclaves quand ils arrivent dans leur famille d'accueil, si on peut dire ça comme ça, la famille Grondin à La Réunion, et puis comment les relations se mettent en place, comment elles se dégradent. Et puis la dernière partie, c'est le moment où, après un climax dans le livre, on va avoir la période où on va dire on a le marronnage, où les esclaves vont s'enfuir du domicile. Donc c'est un roman qui vous prend, donc on a envie de connaître la suite. Qu'est-ce qu'il a d'original ? Ben déjà la première partie, La Badine du Fou, c'est le nom que donne l'auteur au bateau qui transporte donc les esclaves, et c'est aussi, on va dire, le bâton et le fouet, donc c'est un beau clin d'œil aussi à cela. Donc on voit que dans le bateau, les conditions de traversée sont ignobles. Donc c'est pas le premier roman qui en parle, mais là c'est quand même assez bien écrit, et que ceux qui arrivent sont quelque sorte des survivants, des morts vivants. Donc après ce passage, donc l'arrivée à La Réunion, ils sont accueillis par Monsieur Grondin, donc qui a une fille dont la maman est morte, qui a une maîtresse et qui choisit donc un des esclaves qu'il semble le plus fort, Mozambique, pour venir cultiver ses champs avec trois autres, plus une jeune femme. Et il va y avoir un certain nombre de relations qui se créent entre tous ces personnages. Ce qui est intéressant, c'est que la fille de Monsieur Grondin, donc qui s'appelle Rosemary, elle a une certaine humanité, elle ne supporte pas que ses esclaves soient traités comme des meubles, des animaux, et elle va entretenir avec eux des relations qui sont, on va dire, plus amicales que de maître à esclave. Cependant, les relations vont un peu se tendre quand Monsieur Grondin va avoir sa maîtresse qui est assassinée, et on a toutes sortes d'intrigues qui se mettent en place, et à ce moment-là, les choses vont aller de mal en pis. Jusqu'au moment où, vers la fin, on a la fuite des esclaves vers les hauts de l'île à nouveau. Donc on est pris, les thèmes développés, ben c'est tout, bien sûr la violence faite aux esclaves, le déracinement aussi, et puis on voit la vie fruste dans l'habitation hein, au début du 18e siècle, et la découverte des hauts. Donc ce que ce roman a pour moi d'original, c'est aussi qu'une blanche va choisir d'amener ses esclaves vers la liberté et elle-même de se mettre en quelque sorte comme révolutionnaire. Et je vais juste vous lire un petit passage de ce roman qui est la toute fin du livre où justement Rosemary va avoir un bébé donc avec un des esclaves qui était appelé Mozambique mais dont le vrai nom est Natumbe. Alors... Une fille, tu as gagné une fille, Natumbe. Elle te ressemble. Je l'ai appelée Maya Eugénie, comme ma mère, et Maya Rosa. Son souvenir ne nous a jamais quittés, je crois. Et maintenant, sa voix se brisa, l'émotion transmise à son homme, encombrant sa gorge. Les mots grouillaient, mais restaient bloqués. Le temps avait passé. Une éternité. Un frisson parcourut l'instant, l'émotion gava les cœurs, une pluie fine perla au bord des paupières. Oubliez la patience et la retenue cloîtrée dans leur âme jusqu'à présent. Ils s'agitaient, ils criaient leur joie d'accueillir Maya Eugénie, leur fierté, leur lien qui surpassait les différences de culture et de couleur. Aujourd'hui, l'existence se parait, s'emparait d'espoir. Le bonheur décimait le malheur. L'embellie revenait après la tempête. À nouveau, la vie poussait la mort dans d'autres contrées. Voilà, donc c'est le moment où Matumbe découvre son enfant, sa fille, donc qui est cette fois-ci une sans-mêlée, blanc et noir. Et il l'appelle Mazazakel, donc pour illustrer ce petit passage, j'ai choisi de vous passer comme musique Zazakel de Graines Semées. Alors, pour faire écho à ce livre, La Badine des Fous, donc sur le thème aussi de l'esclavage, dans le numéro 7 de Cagnard, on a une nouvelle qui s'appelle « Pour les Mozambos de la Terre » de Nathalie Valentine Legros, qui m'a aussi interpellée, puisque ben, les deux parlent un peu du même thème du marronnage. Dans à peu près à la même époque à La Réunion. On suit dans cette nouvelle une esclave qui s'appelle Miranda et qui justement essaye de marronner alors qu'elle est en voie de famille, c'est-à-dire qu'elle est enceinte. Elle va accoucher dans les remparts et pour ne pas se faire attraper, elle va jusqu'à devoir tuer et enterrer son bébé, donc c'est un peu fort. Mais elle n'arrive pas à aller jusqu'à la fin, jusqu'à retrouver les autres esclaves marrons. Et elle rentre au domicile pour ne pas se faire attraper. La mort dans l'âme en quelque sorte. D'autant plus la mort dans l'âme, c'est la fin de cette nouvelle qui est forte, qu'on nous dit que quelques semaines après que cet épisode ait eu lieu, il y a l'abolition de l'esclavage. Donc c'est aussi une fin très forte. Moi, ce qui m'a interpellée dans ce roman aussi, c'est le début, parce qu'on traite aussi du thème de l'exil, de ces gens qui viennent d'ailleurs et qui arrivent à La Réunion. Et alors que La Réunion est souvent décrite comme une terre d'accueil, une terre hospitalière, là, c'est un peu La Réunion prison qui est décrite. Et c'est ces mots qui m'ont interpellée que je vais vous lire au début de cette nouvelle. Je vous rappelle le titre. Pour tous les Mozambos de la Terre. Donc on parle de Miranda. Hein. Elle n'a jamais connu Inhambane. Donc c'est le lieu apparemment de ses ancêtres. Elle est née ici, en terre extravagée, en terre insulaire et sans port, dévorée par le soleil. Avec à perte de vue, l'eau qui ne dort jamais. En l'île Jôle, avec ses arbres rouge sang et sa barrière de corail à la morsure de feu en guise de barreau. En terre cernée d'eau, dont on ne s'évade pas, avec ses ossuaires de bateaux échoués sur les étoques de la côte à corps du Grand Sud-Est. En terre d'écueils, avec son volcan, tantôt ange, tantôt dragon, avec ses pics montagneux qui étripent les nuages, avec ses hauts plateaux où l'on ne s'aventure que pour se perdre, avec ses forêts où la lumière du jour ne pénètre pas, avec ses bas-fonds de ravines où meurt la pluie, avec au centre, derrière les remparts au sommet neigeux, le territoire interdit, ultime point de fuite, avec au loin, derrière l'horizon, le mirage du pays des ancêtres, évaporé comme en désert. Donc je trouve que cette introduction est belle parce qu'elle nous fait prisonniers quand on a perdu la liberté. Bah, c'est pas une île paradisiaque qui est vue, mais c'est une île prison. Donc c'était un point de vue que j'avais trouvé intéressant. Autre nouvelle de ce numéro de Cagnard, numéro 7, qui m'a interpellée, c'est une nouvelle qui s'appelle « Orage » de Marie Martinez. Donc c'est une nouvelle qui ne parle pas de La Réunion, donc qui parle d'un lieu en métropole. Pourquoi est-ce que je l'ai appréciée? Parce que j'ai trouvé que l'écriture était belle. Si je résume un petit peu l'histoire, c'est une jeune femme qui va pour faire une balade dans la montagne à travers la forêt et qui est prise par l'orage et qui doit redescendre. Alors comme ça a l'air assez simple. C'est en même temps au cours de cette balade qu'elle se remémore et qu'elle décrit le trouble qu'elle a pour un homme. Donc on est un peu avant une relation amoureuse, cette période de trouble un petit peu indéfinissable, mais on sent bien que quelque chose se passe et qu'il y a quelque chose de magique qui peut basculer ou non dans un sens ou dans un autre. Donc pour moi, ce qui m'a plu, c'est cette description de la nature autour, du moment présent. Elle est très, très, on va dire, connectée à ses sens et elle décrit tout ce qu'elle voit d'une façon très intense. Et aussi le trouble donc de cet éveil amoureux qui est aussi, je trouve, bien, bien décrit. Alors, je voudrais aussi vous lire un petit passage. Alors, elle décrit ses premiers moments donc, de trouble. « Je ne pouvais décidément pas m'empêcher de repenser à cette soirée joyeuse où j'avais croisé plusieurs fois son regard et où il était venu, un peu plus tard, me rejoindre dans le jardin frais et calme alors que nous avions été éliminés du jeu que les autres poursuivaient dans la maison. Les éclats de rire nous parvenaient dans le noir. Nous avions échangé quelques mots sans importance. » Je ne me souvenais que de mon trouble, de l'effet que produisait sa présence, le timbre de sa voix claire et grave. Peut-être que le simple fait qu'il m'ait rejointe sous la tonnelle du jardin obscur et silencieux avait suffi à m'émouvoir. J'ai essayé, sans y parvenir, de comprendre ce qui m'avait touché. J'espérais atténuer mes sensations, alléger le mystère avec une explication. Son amitié avec Louis rendait la relation entre Antoine et moi délicate, éperdument fantasmatique. J'ai décidé de ne pas m'interroger davantage, de rejeter à nouveau ses pensées envahissantes. Pourtant, l'image jaillissait malgré moi, celle de la frange de vigne vierge, des feuilles découpées nettement, noires comme tout le jardin, sous les reflets lunaires. Voilà, donc un petit extrait pour vous donner envie de lire ces nouvelles, donc dans le numéro de Cagnard numéro 7. Donc pour aujourd'hui, j'ai fini cette émission. Je voudrais vous dire quelques mots du livre dont nous parlerons la semaine prochaine, avec la présence de son auteur. Il s'agit de Fukushima. Alors Fukushima, tremblement et stupeur 10 ans après, de Jean-Michel Jacquemin-Raffestin et Michael Navo. Donc on parlera de ce livre et de quelques autres la semaine prochaine. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté page en partage. Et j'espère que ces échanges vous auront permis, vous auront donné envie de lire des livres et des nouvelles bien de chez nous. Merci et bonne journée. Au revoir.